Bonjour à chacun d'entre vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes aussi en forme que les enfants. J'étais assis derrière eux ce matin et je les ai trouvés particulièrement en forme. Voilà, j'ai toujours une pensée pour les parents dans ces cas-là, en ce début de vacances. Voilà. Ça va vite, hein, entre les vacances d'été et les vacances de la Toussaint. Déjà en vacances les enfants. Eh oui. Bref, mais ça n'a aucun rapport à ce que je vais vous dire. Je vais vous parler d'un thème boomerang aujourd'hui. Vous savez, les thèmes boomerang, ce sont les sujets de prédication qui reviennent régulièrement. Et le changement, eh bien, fait partie des thèmes boomerang. Parce que Daniel l'a abordé il y a 3 semaines, donc il y a des boomerangs qui reviennent assez vite. Et je l'avais aussi abordé, moi, il y a 2 ans, ce thème du changement. Mais c'est vrai que c'est un thème qui est tellement riche, qui nous concerne tous, et encore même avant le début du culte, eh bien, en échangeant avec Daniel, il me disait, mais encore un autre aspect du changement. Et c'est vrai que le changement, eh bien, encore une fois, il nous concerne tous, absolument tous, que si nous ne sommes pas encore convertis, eh bien, c'est un changement radical que de se convertir, c'est quelque chose qui est essentiel, on change d'identité même, hein, on devient fils de Dieu, rien que ça, c'est quand même important. Et puis le changement, eh bien, une fois qu'on est converti, eh bien, c'est un changement permanent pour toujours ressembler davantage à Christ. Et Jean, tout à l'heure, dans sa lecture, en parlant de l'aveugle, lui aussi, il a connu un changement radical qui est justement de retrouver la vue. Et tout au long de notre vie, eh bien, nous sommes appelés à changer pour, encore une fois, ressembler eh bien, à Christ. Changement dans notre caractère, changement dans notre priorité, dans nos habitudes. Et les domaines dans lesquels nous avons à changer eh bien, sont extrêmement riches. Et ressembler toujours plus à Christ, eh bien, c'est notre enjeu majeur, c'est notre défi, parce que c'est vrai et que c'est quelque chose qui est difficile. Et la dernière fois, quand Daniel avait abordé ce sujet, il avait abordé à partir de cette question que Jésus avait posée au paralytique dans l'évangile de Jean au chapitre 5, et il lui disait « Veux-tu être guéri ?» Décliné en 2 aspects, décliné d'une part pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, est-ce que tu veux être sauvé? Et puis aussi les personnes qui ensuite se sont converties, est-ce que tu veux changer, est-ce que tu veux être transformé? Et dans la dernière partie de sa prédication, eh bien, il avait aussi évoqué tous les freins que l'on peut avoir pour changer. Alors, je suis sans être exhaustif, Daniel avait cité la résignation, l'autosatisfaction, la paresse, la méconnaissance, l'orgueil, la peur, et c'est vrai que quand on veut changer, quand on veut faire bouger les lignes de sa vie, de sa personnalité, eh bien, on bute contre un certain nombre de freins. Et ce matin, j'aimerais bien vous partager une réflexion sur comment, au fond, nous aider à lever ces freins. Et sans que ce soit magique, mais c'est vrai que ça demande de la persévérance, de changer, de lever ces freins, eh bien, je vous propose quand même de vous conduire dans cette réflexion-là. Comment je fais pour lever les freins que je peux avoir, contre lesquels je peux me cogner, pour justement changer? Et pour aborder ce thème, je vous propose la lecture vous avez les références là, dans 2 Rois 5, versets 1 à 19. Et dans ce passage, eh bien, on lit l'histoire de Naaman. Alors là, on est à peu près à 850 ans avant Jésus-Christ. Naaman est un chef de guerre, c'est le chef de l'armée de Syrie, du royaume de Syrie. Et le royaume de Syrie et le royaume d'Israël se touchent. Le royaume de Syrie est un petit peu au nord du royaume d'Israël. Et régulièrement, les Syriens eh bien, font des raids militaires dans le territoire d'Israël. Ils ont des relations très conflictuelles, les deux nations. Et encore une fois, eh bien, il y a des raids militaires dans les territoires d'Israël. Et Naaman, donc le chef de l'armée, conduit ces raids. Et on lit l'histoire de Naaman justement dans ce contexte-là de raids qui ont été réalisés par les Syriens vers Israël. Donc je vous propose de lire 2 Rois 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera un appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de Dieu. Sa chair devint comme celle d'un jeune homme, d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël maintenant. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici. » À moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, va en paix, pars en paix. Encore une fois, la lecture et pour moi la relecture de ce texte, je me rends compte à combien il est riche et finalement je me rends compte aussi que la prédication porte que sur quelques points de ce texte et je vous encourage vraiment à méditer, à réfléchir parce qu'il y a de multiples enseignements pour nous. Et je voudrais qu'on voit ensemble les grandes étapes justement par lesquelles Naaman est passé pour être changé, pour être transformé et quels enseignements on peut en tirer pour nous. Et dans un premier temps, dans cette première étape, dans cette réflexion, eh bien, je vous invite à lire ou à relire le verset 4 où il nous dit « Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et la lecture du début de ce texte eh bien, nous laisse penser qu'il y a un climat de confiance qui règne autour de Naaman. Il faisait confiance et on lui faisait confiance. Et plusieurs exemples dans les relations qu'il pouvait avoir avec les personnes qui l'entourent l'illustrent et le montrent. Par exemple, au tout début du texte, eh bien, on apprend que Naaman jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Alors, cette estime est probablement due à ses faits de guerre, puisqu'il a remporté des victoires sur Israël. Mais je ne crois pas seulement. Parce que, vous voyez, on apprend aussi qu'il est lépreux. Et sa lèpre met en valeur, je crois, ses qualités personnelles. Parce que normalement, à cette époque, quand on était lépreux, on était impur et on était comme un paria et on était rejeté par les autres hommes. Et lui, pas du tout, garde ses fonctions, il continue à être le chef de l'armée de Syrie. Et tout se passe comme si, au fond, le regard que les autres pouvaient porter sur Naaman, eh bien, ses qualités compensaient largement cette impureté qui était la lèpre. Donc je me dis que Naaman devait avoir un certain nombre de qualités personnelles qui faisaient qu'on lui faisait confiance. Ensuite, il y a la petite fille. La petite fille, parce que bien qu'elle soit éloignée de sa famille, bien qu'elle ait été enlevée par les Syriens, eh bien, elle s'inquiète de la santé de son ravisseur. C'est étonnant quand même. Et elle fait preuve de beaucoup de bienveillance à l'égard de Naaman. Il est pourtant, lui, Naaman, eh bien, le premier responsable de son malheur, peut-être, hein, de son enlèvement. Alors, elle aurait pu se dire, eh bien, pour la lettre, eh bien, tant pis pour lui, ou plutôt tant mieux, c'est bien fait, hein, et il a bien cherché, et pas du tout, en fait. Elle fait preuve de beaucoup de bienveillance à son égard, et elle souhaite sa guérison. Et on lui dit, justement, comment guérir en allant voir le prophète. La femme de Naaman, qui est le quatrième personnage de ce début de récit, écoute la petite fille et lui accorde du crédit. Et là aussi, il y a de la confiance. La femme de Naaman écoute son esclave, en fait, c'est la petite fille. Et puis Naaman, à son tour, eh bien, fait confiance à sa femme. Et par conséquent, fait confiance aussi à la petite fille. Et ce sont les paroles de l'enfant qui motivent Naaman pour aller voir le prophète et aussi pour aller voir son roi pour lui demander la permission, l'autorisation d'aller en Israël. Et je trouve que la confiance que se témoignent tous les personnages de ce début de l'histoire, eh bien, débouche sur une situation étonnante. D'un côté, il y a Naaman, le chef du roi de Syrie, qui a la faveur et l'estime de son roi, parce qu'il a remporté des batailles. Et de l'autre côté, eh bien, il y a une petite fille, issue d'un peuple qui a été vaincu, en tout cas qui a perdu des batailles, enlevée à sa famille, enlevée à son peuple, pour servir d'esclave auprès de la femme de Naaman. Et normalement, cette petite fille n'aurait pas dû avoir beaucoup de prix aux yeux de Naaman. Et encore moins ses paroles, elle n'aurait pas franchement dû être écoutée. Et pourtant, elle va justement être écoutée et jouer un rôle fondamental dans la guérison de Naaman. Lorsqu'il va voir le roi, quand Naaman va voir son seigneur, eh bien, l'argument qu'il met en avant pour lui demander l'autorisation d'aller en Israël est justement les paroles de la petite fille. Et il lui dit « elle a parlé de telle ou telle manière ». Et c'est justement le verset 4. Et c'est un vrai paradoxe, cette situation, parce que là, une petite fille est écoutée par le chef de guerre, par le chef de l'armée de Syrie. Une esclave issue du peuple qui a été vaincue, eh bien, est écoutée par le responsable de la victoire. Et vous voyez, ce que je trouve étonnant dans ce début de récit, et puis ce sera vrai tout au long de ce passage que l'on a lu, eh bien, c'est la confiance qui pouvait régner entre les individus, entre les personnes. Et c'est vraiment le premier point que je voudrais souligner ici, c'est que pour changer le climat de confiance et être dans un climat de confiance est essentiel. Il ne se serait rien passé du tout si les personnages ne s'étaient pas fait confiance. Et la confiance a permis cette réaction en chaîne, justement. C'est la petite fille, d'abord, qui a eu confiance dans son seigneur, qui lui a dit ben voilà ce qu'il devrait faire. C'est la femme de Naaman qui l'a écouté. C'est Naaman qui a écouté la femme. Enfin bref, comme ça, cette réaction en chaîne de la confiance jusqu'à la guérison de Naaman. Et c'est vrai que pour nous aussi, le changement n'est possible que si on se fait confiance. Si on fait confiance et si l'on nous fait confiance. Et je crois vraiment que pour changer, eh bien, on a besoin de prendre le risque de la confiance. Dit autrement, c'est pas possible de changer tout seul. J'ai besoin du soutien de mes frères et sœurs. J'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être soutenu. Et parfois, vous le savez bien, le changement est difficile et j'ai vraiment besoin de soutien. Naaman, lui, a été soutenu. Il a été soutenu par sa femme, par sa petite fille, enfin par la petite fille, par son roi aussi, qui lui a donné la permission d'aller voir le peuple d'Israël et qui l'a encouragé à le faire. Et pour moi aussi, si je veux progresser avec Dieu, si je veux me débarrasser d'un comportement, faire des choses nouvelles, si je veux me lancer dans un nouvel engagement, par exemple, eh bien, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de prière aussi. Et c'est normal, c'est normal. Et pour changer, j'ai besoin de prendre le risque de la confiance. J'ai besoin de savoir que je ne serai pas jugé. J'ai besoin de savoir que je serai encouragé. Et l'Église, l'Assemblée, est justement un lieu où je devrais être encouragé, où je devrais justement y avoir absence de jugement. L'Église est là pour nous soutenir, nous encourager, bien sûr, dans notre évolution avec le Seigneur. Alors ça peut prendre de différentes formes. Ça peut être dans le cadre d'un groupe de croissance avec un frère ou une sœur avec qui je partage régulièrement. C'est aussi un bon sujet pour les groupes de semaine. Et maintenant, on reprend les thématiques des prédications justement dans les groupes de semaine. Eh bien, c'est un bon moyen justement et un bon sujet à partager. La famille aussi est aussi un lieu d'encouragement, un lieu de soutien pour justement oser faire des choses nouvelles. Et chacun d'entre nous a besoin d'être entouré pour progresser avec le Seigneur et d'être dans une relation de confiance mutuelle. Et ce n'est pas possible de progresser avec Dieu en restant tout seul. Et je voudrais vraiment souligner ce premier point, justement, c'est-à-dire que pour oser changer, eh bien, j'ai besoin de prendre le risque de la confiance, de faire confiance et que l'on me fasse confiance. Si je pense que je peux être jugé, je ne vais pas changer. Si je me lance dans une nouvelle chose et qu'on risque de me dire de se moquer ou d'être dénigré, je n'ai pas du tout envie de changer. Naaman était dans ce climat de confiance et ça lui a permis de prendre le risque justement de la confiance. Ça, c'est la première étape. Pour oser changer, eh bien, j'ai besoin de savoir que je suis dans un climat de confiance. Deuxième étape, et je vous invite à sauter jusqu'au verset 13. Une situation qui est étonnante. Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la signification du verset 13, c'est le comportement des serviteurs, la démarche des serviteurs qui osent venir voir Naaman alors qu'il est profondément en colère. Et je trouve que leur démarche est instructive sur le comportement, sur le caractère de Naaman. Naaman est quelqu'un que l'on peut voir, que l'on peut venir voir, même s'il est en colère. Naaman se met en colère. Pourquoi il se met en colère ? Parce qu'il s'attendait à quelque chose de bien précis de la part d'Élisée. Il s'était imaginé de la manière, comment la rencontre allait se passer. Il avait même anticipé les détails, et on le voit au verset 11 où il est dit « Il fera un mouvement de sa main au-dessus de l'endroit malade et il guérira ma lèpre ». Vous voyez, il s'était fait déjà son scénario, il s'était fait un film, Naaman. Il a des certitudes fortes avant de rencontrer Élisée. Et sa déception est forte, et tout aussi forte, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Et Élisée ne vient même pas le voir. Vous voyez, vous rendez compte, Naaman, chef de l'armée de Syrie, qui est un peuple vainqueur, eh bien, Élisée ne prend même pas la peine de sortir le voir pour le rencontrer. Alors Naaman tourne le dos et est plein de colère, ce sont les termes du texte. Et sa déception est à la hauteur de ses attentes. Et sa déception est aussi à la hauteur de son espérance de guérison. Et là, ici, eh bien, une chose étonnante se produit. Elle est décrite au verset 13, qui est celui qui est affiché. Ses serviteurs viennent le voir et lui disent « Mon père ». Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors qu'il est en colère, eh bien, ses serviteurs viennent le voir pour lui dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et en plus, ils osent lui dire ce qu'il devrait faire. Ils sont gonflés quand même. Et ils lui disent « Tu dois d'autant plus faire ce qu'il t'a dit. Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit, exactement. » Et c'est vrai que c'est une attitude étonnante. Ses serviteurs osent venir le voir alors qu'il est en colère, et en plus pour lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Je suis sûr que dans cette pièce, et moi compris, il y a des personnes, certains d'entre nous, quand ils sont en colère, il vaut mieux pas venir les voir. Bon, non, pas ici, mais ailleurs, imaginez, vous avez rencontré des gens qui... Eh bien, pas Naaman. Et pourtant, Naaman avait beaucoup plus de pouvoir que chacun d'entre nous. Et en plus, ce sont ses serviteurs qui viennent le voir pour lui dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est étonnant. Les serviteurs de Naaman savaient qu'ils pouvaient venir le voir pour lui dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, sans risquer de subir les foudres de sa colère. Et eux aussi, eh bien, ils lui faisaient confiance. Et je crois que ça en dit long aussi sur le caractère de Naaman. Et c'est aussi intéressant de voir la manière dont les serviteurs s'adressent à lui. Et ils l'appellent « mon père ». Et s'ils interviennent, c'est pour qu'il soit guéri. S'ils interviennent, c'est pour son bien. Et ils savent qu'ils peuvent le faire changer d'avis. Qu'il y a suffisamment d'humilité, et ça c'est un point aussi clé pour changer et faire preuve d'humilité, qu'il y a suffisamment d'humilité chez Naaman pour qu'il les écoute et qu'il accepte de se remettre en question. Naaman, malgré son pouvoir, malgré son rang, malgré son prestige, et même d'un point de vue personnel ici, malgré sa colère, accepte d'écouter ses serviteurs et tient compte de leur avis. Et il fait ce qu'ils lui ont dit. Et dans le point précédent, nous avons dit que, eh bien, pour changer, nous avons besoin d'être entourés, nous avons besoin d'être dans un climat de confiance. Et c'est ce qui se passe ici. Naaman est entouré de ses serviteurs qui lui font confiance, encore une fois, ils peuvent lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Et Naaman leur fait confiance parce qu'il les écoute. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas pour changer. Naaman a accepté de se remettre en question, a reconnu qu'il avait tort et reconnu que sa colère n'était pas forcément une bonne réaction. Accepter de se remettre en question, eh bien, je crois que c'est un deuxième point clé justement pour accepter le changement, pour oser changer. Parfois, comme Naaman avec Élisée, eh bien, on s'attend à des choses précises avec Dieu. Nous nous attendons à ce qu'il agisse de telle ou telle manière. Ou parfois, avant de se convertir, on attend quelque chose qui se passe, sans trop savoir quoi d'ailleurs. Naaman, lui, au milieu de sa colère, a écouté les conseils de ses serviteurs. C'est-à-dire écouter les conseils de personnes qui, socialement, étaient largement inférieures à lui. Est-ce qu'on est prêt, au fond, nous, à nous remettre en question ? Est-ce qu'on est prêt à faire bouger un certain statu quo qui peut durer déjà depuis de longues années ? Nous avons parfois des comportements nocifs, nocifs pour nous-mêmes, nocifs pour les autres, nocifs pour notre relation avec Dieu. Et est-ce qu'on est prêt justement à nous remettre en question? Est-ce qu'on est prêt justement à changer, à corriger ces comportements nocifs? Et parfois notre orgueil, parfois nos peurs, eh bien, nous empêchent de voir ces comportements nocifs. Est-ce que nous entendons les encouragements que peuvent nous dire nos frères et nos sœurs à changer? Des personnes en qui nous avons confiance et qui nous font confiance et qui nous conseillent de faire des choses différentes, de nous comporter de manière différente. Est-ce qu'on ose venir nous voir pour nous dire, tiens, tu vois, ça je ne le ferais pas comme ça si j'étais à ta place, ou je n'aurais pas réagi comme ça. Et parfois, on n'ose pas venir dire les choses parce qu'on a peur de blesser, on a peur de faire du mal, on a peur de la réaction de l'autre. Est-ce qu'on est suffisamment dans une relation de confiance? Est-ce qu'on est suffisamment dans une relation d'accepter la remise en question pour entendre des choses qui sont pas forcément agréable, et les accepter. Et Naaman était franchement en colère. Et ce sont ses serviteurs, donc largement en dessous de lui, qui sont venus le voir pour lui dire « Hé, là ça va pas, t'as pas eu une bonne réaction. » Parce que si on refuse, si on n'accepte pas cette remise en question, eh bien, on peut pas changer, il n'y a pas d'évolution possible. Alors, c'est le troisième point, Naaman, verset 14, descendit alors se plonger sept fois dans le Jourdain, conformément à la parole de Dieu, de l'homme de Dieu. On a vu la nécessité de la confiance, on a vu la nécessité d'accepter, d'être capable de se remettre en question. Et le geste de se plonger dans le Jourdain montre la grandeur de la foi de Naaman. Et c'est le troisième élément nécessaire au changement. Naaman a foi dans la parole d'Élisée, et donc dans le Dieu d'Israël, puisque c'est un homme de Dieu. Et je crois qu'il est conscient, effectivement, que l'eau du Jourdain n'est pas magique. D'ailleurs, il va le dire. Il dirait, est-ce que vraiment les fleuves de Damas ne sont pas d'aussi bonne qualité que le Jourdain? Mais comme c'est Élisée, et que Élisée est considéré comme un homme de Dieu, eh bien, comme c'est Élisée qui lui demande, il va lui faire confiance. Et en faisant confiance à Élisée, c'est à Dieu qu'il fait confiance. Et faire confiance à Dieu, eh bien, ça s'appelle la foi. La foi, c'est une forme de confiance. La confiance est tournée vers les hommes, et puis la foi, bien sûr, est tournée vers Dieu. La foi, c'est de faire confiance en Dieu. Et d'autres personnes, d'autres personnages de cette histoire montrent aussi de la foi. C'est la petite fille qui ne montre aucun doute dans la capacité d'Élisée à guérir Naaman, mais c'est aussi le roi de Syrie qui dit, bah, écoute, vas-y, va Naaman, va voir le prophète, va en Israël, va voir le prophète Élisée. Hein, et ces personnages aussi montrent de la foi. La seule chose que Naaman doit faire, c'est de se plonger sept fois dans le Jourdain. Ce n'est pas bien compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Mais au fond, ce n'est pas de se plonger dans le Jourdain qui est compliqué. C'est de croire que ça va avoir un effet sur sa lèpre. C'est ça l'enjeu ici. Et ce n'est pas l'immersion dans le Jourdain qui a guéri Naaman, mais Dieu. Et l'eau n'était pas magique, et Naaman en était conscient, et effectivement valait tous les fleuves de Syrie. Mais c'est une sorte de test de la foi de Naaman. Et c'est sa foi qui a été mise à l'épreuve, pas lui. Sa foi est-elle suffisamment grande pour croire que Dieu pouvait le guérir? Et la question que pose Élisée à Naaman est assez simple. Est-ce que tu es capable d'obéir en faisant quelque chose qui pour toi n'a aucun sens? Se plonger cette fois dans le Jourdain, pour lui ça n'avait aucun sens. Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à croire que Jésus... Enfin, que Dieu peut te guérir, Jésus pas encore, mais ensuite, que Dieu peut te guérir. Et dans sa guérison, Naaman a une part du chemin à faire, c'est l'obéissance. C'est de dire oui à Dieu, oui à Élisée, et Dieu a fait le reste, Dieu l'a guéri. La foi, c'est croire que Dieu peut changer les choses. Et Naaman a cru, et c'est pour ça qu'il est allé en Israël, c'est pour ça qu'il s'est plongé cette fois dans les eaux du Jourdain. Aller dans les eaux du Jourdain, encore une fois, c'est une chose qui est simple. Et ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une grande épreuve à surmonter. Et faire des choses simples, qui sont peu engageantes finalement, eh bien, c'est de laisser toute la place à Dieu. Si Élisée était effectivement sorti de chez lui, avait fait ce à quoi Naaman s'attendait, passer la main sur la lèpre et guérir la lèpre, eh bien Naaman aurait pu croire que c'est Élisée qui l'avait guéri et pas Dieu. Si Élisée avait dit à Naaman, eh bien, écoute, voilà ce qu'il va falloir que tu fasses, s'il avait dû faire quelque chose de compliqué, surmonter des épreuves, eh bien, il aurait pu, quelque part, s'attribuer la guérison. Là, pas du tout. C'est une chose très simple que de se plonger dans les eaux du Jourdain, et toute la guérison est attribuée à Dieu. Tout le mérite en revient à Dieu. Faire des choses simples dans la simplicité de l'obéissance à Dieu, c'est lui laisser toute la place. Est-ce que notre foi est suffisamment grande, au fond, pour laisser Dieu nous changer ? Est-ce que notre foi est suffisamment grande pour laisser Dieu agir en nous ? La foi, c'est s'abandonner. Pas facile, hein ? La foi, c'est se laisser porter. La foi, c'est accepter de perdre le contrôle. Ça aussi, c'est compliqué. Moi, j'aime bien contrôler les choses. Je ne suis sans doute pas le seul. Et la foi, c'est accepter justement de perdre le contrôle. La foi, c'est accepter de ne pas avoir la maîtrise sur des événements. La foi, c'est prendre le risque que ça ne marche pas. Oui, parce que Dieu est souverain. Et je crois, mes amis, que pour nous laisser changer, pour laisser Dieu nous changer, nous avons nécessairement besoin de baisser la garde. Nous avons besoin de nous laisser faire. Si on résiste, ça ne fonctionnera pas. Alors, quel serait pour nous aujourd'hui l'équivalent de se plonger cette fois dans le Jourdain ? Je ne sais pas si l'Isère est assez profonde. Je ne suis pas sûr que ça marcherait. Est-ce que ça vaut les fleuves de Damas ou d'Israël, justement ? Mais je crois qu'une chose aussi simple serait de dire oui, oui à Dieu. Dire oui, juste ces trois lettres, dire oui. Oui, je veux te donner ma vie. Quoi de plus simple que de lui dire oui et de le laisser agir ? C'est de dire, par exemple, Seigneur, oui, ce comportement, j'aimerais vraiment que tu le changes et le laisser agir. Souvent, on ne peut rien faire d'autre que de laisser Dieu agir, de lui ouvrir les portes de nos vies, de lui ouvrir les portes de notre cœur. Et pour accepter de nous abandonner à Dieu, eh bien, je crois qu'il est nécessaire de le connaître. Et je crois que souvent, notre manque de foi est lié à notre méconnaissance de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas assez Dieu. Non pas, et ça c'est important, je crois, non pas de connaître des choses sur Dieu, mais de connaître Dieu. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est même vraiment pas la même chose. Connaître des choses sur Dieu, c'est d'en avoir une connaissance intellectuelle, culturelle, littéraire, parce que, voilà, je connais plein de choses, je connais la Bible. Et connaître Dieu, ce n'est pas la même chose que connaître des choses sur Dieu. Connaître Dieu, c'est d'en avoir une connaissance intime, personnelle, une relation personnelle avec Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça suppose que, eh bien, on passe du temps avec lui dans la prière. Ça suppose qu'on passe du temps aussi avec lui dans la lecture de la Bible, en lui disant, en lui demandant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans ma vie sur ce texte-là ? C'est ça, connaître Dieu. On peut être très fort pour connaître des choses sur Dieu. Et il y a des théologiens extrêmement érudits qui, finalement, ne sont pas convertis, vous voyez. Nous, on est appelés à connaître Dieu. C'est important de connaître des choses sur Dieu, mais de connaître Dieu est bien plus important. Et une fois que je connais Dieu, alors je suis prêt à m'abandonner, parce que je suis conscient de son amour. Je suis conscient de la relation qu'il veut avec moi. Je suis conscient qu'il m'aime. Et ça, si je ne connais pas Dieu, eh bien, je ne peux pas en avoir conscience. Et quand je sais que Dieu m'aime, eh bien, je peux le laisser agir dans ma vie. Et j'ai conscience qu'il veut nous changer en mieux. Pas comme je veux, mais comme lui veut et en mieux. L'obéissance et la prise de risque sont aussi associées à la foi. L'obéissance et la prise de risque. Et ça aussi, ce sont des freins avec lesquels on a du mal. L'obéissance pour faire ce que Dieu nous demande. Tout simplement lui répondre oui. Dieu ne peut pas agir dans ma vie si je m'oppose à lui. Il ne va pas passer en force, Dieu. Il va nous respecter quelque part. Et si je m'oppose à lui, si je ne lui obéis pas, il ne pourra rien faire dans ma vie. D'où l'importance de ma capacité, la capacité que je peux avoir pour me remettre en question. Et la prise de risque est aussi importante, car, comme j'ai dit tout à l'heure, le principe de la foi, c'est d'accepter de ne pas tout maîtriser. Et Naaman a pris un risque en plongeant dans le Jourdain. Alors, ce n'était pas un risque physique, je ne crois pas. Mais il a pris le risque que ça ne marche pas. Il a peut-être pris le risque du ridicule. Il a peut-être pris le risque de l'humiliation. Vous voyez, il s'était peut-être déjà senti humilié par le fait qu'Élisée ne vienne pas le voir. Peut-être qu'il s'est aussi senti humilié, même s'il a sans doute bien vécu, que ses serviteurs lui disent « Ta colère, c'est pas un bon truc ». Il s'est peut-être senti humilié que lui, le chef de l'armée syrienne, ait à se plonger dans le Jourdain. Je lisais un commentaire qui disait que là où a eu lieu cette immersion, c'était une partie du fleuve qui était particulièrement étroite et boueuse. Vous voyez ? Comment il est ressorti, Naaman ? Ouais, se plonger cette fois. Il n'a pas eu peur d'affronter justement cette humiliation. Il a pris le risque de l'humiliation. Et quand je dis oui à Dieu, eh bien je sais pas ce qui va se passer ensuite. D'où l'importance de le connaître. Parce que quand je connais Dieu, je sais que ce qu'il veut pour moi, c'est du bien. Et j'accepte de prendre le risque de le suivre et le risque avec lui. Et dans cette prise de risque, eh bien, j'ai besoin du soutien de mes frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, pour m'aider à franchir le pas du changement. Et je crois qu'une vie où nous ne prenons pas de risque avec Dieu est une vie qui n'atteint pas tout son potentiel. Je la redis parce que c'est une phrase qui est importante. Quelqu'un qui ne prend pas assez de risques ou qui ne prend pas de risques avec Dieu, c'est une vie qui n'atteint pas tout son potentiel. Parce que Dieu nous demande de prendre des risques. Pas des risques immodérés, mais de changer, de bouger, d'évoluer. Tout changement, eh bien, est une prise de risque. Je prends le risque que ça ne marche pas, je prends le risque, enfin, plein de choses que j'ai déjà dites. Et tous les hommes, en tout cas beaucoup d'hommes et de femmes dont la Bible nous parle, les hommes et les femmes de Dieu, eh bien, ont pris le risque, ont pris des risques avec Dieu et ont pris des risques pour Dieu. Parce que Dieu nous demande de changer, Dieu nous demande d'évoluer pour lui ressembler et aussi pour le servir. Et dans tout changement, je le redis, il y a une prise de risque. La conséquence du climat de confiance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui entourait Naaman, de sa remise en question, de sa foi, toutes ces conséquences ont fait eh bien, qu'il est sorti du Jourdain avec la chair comme celle d'un jeune enfant. Et il a été guéri. Mais au fond, ce n'est pas là le plus important. Ce n'est pas la guérison où il y a eu le changement majeur. Et c'est mon quatrième et dernier point qui me servira aussi de conclusion. Le vrai changement, le changement majeur, est décrit au verset 19. Lorsqu'Élisée lui dit « Va en paix ». Et là, il y a eu un vrai changement. Parce que le changement principal n'est pas extérieur. Ce n'est pas sa guérison, le changement principal. Mais le changement intérieur. Et quand Élisée lui dit « Va en paix ». Sa souffrance, liée à la maladie, l'a mis en route, Naaman. Il a osé prendre des risques, il a osé aller en Israël, écouter la petite fille, se plonger dans le Jourdain. Sa souffrance était sans doute un moteur. Elle l'a mis en route et il est passé par différentes étapes, il a fait confiance, il s'est remis en question, sa foi a été mise à l'épreuve. Mais surtout, à la fin de cette histoire-là, à la fin de ces étapes, il a trouvé la paix. Il a été guéri de sa lèpre, mais surtout il s'est réconcilié avec Dieu. Parce que ce « va en paix » est la réponse d'Élisée à la demande de pardon de Naaman. Je suis pas revenu sur ce texte, mais il a demandé pardon, Naaman, de tourner le dos à Dieu. Et ça nous permet aussi de comprendre l'importance du pardon dans le processus de changement. Demander pardon d'un ancien comportement, d'une mauvaise attitude, demander pardon d'avoir tourné le dos à Dieu. Et pour nous, Christ a le pouvoir de pardonner les péchés et d'opérer en nous le changement radical qui est de trouver la paix. Et oui, nous savons que Christ ne guérit pas toujours toutes les maladies, bien sûr. Mais sa promesse est de nous donner la paix. Et la parole d'Élisée trouve un écho dans la parole de Christ bien plus tard. Et j'ai pris un simple exemple dans Luc 7, versets 48 à 50. Vous savez, c'est la femme, qu'on nomme parfois la femme pécheresse, qui a mouillé les pieds de Jésus de ses larmes et qui les a essuyés avec ses cheveux. Et Jésus dit à sa femme, à cette femme, « Tes péchés sont pardonnés ». Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à ta femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Ouais, c'est la même phrase que Élisée a dit à Naaman bien des années avant. Et seul Christ peut pardonner les péchés et nous dire aujourd'hui, « Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Tu es réconcilié avec Dieu et je te connais. » Vous vous rendez compte de ce changement ? Je te connais. Dieu ne nous connaissait pas, maintenant Jésus, enfin Dieu nous connaît personnellement, intimement. Et ça, c'est le changement radical auquel nous sommes tous appelés. Amen.